Voilà, bonsoir Père et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir à tous. Les paroles du Veni Sancte Spiritus, ce sont des paroles venues d'un autre monde. On ne sait pas comment les traduire. C'est tout l'ensemble qui exprime ce qu'elles veulent dire, jusqu'à la place de chaque mot, jusqu'au son de chaque syllabe. C'est un tout petit passage d'un autre livre du Père Guardini, Le Dieu vivant, et un des éloges qu'il fait de l'hymne du Veni Sancte Spiritus que nous avons entendu en générique. Ce soir, nous allons monter d'un cran, parce que visiblement notre auteur le souhaite, dans la rédaction de son livre sur les signes sacrés, et nous propulse dans le grand mystère des mystères, l'union avec la Trinité, notre communion avec la Trinité. Voilà comment il s'exprime. Nous désirons nous unir à Dieu, nous devons désirer nous unir à Dieu. Et à cette union, deux voies conduisent qui sont différentes, mais qui aboutissent également. Alors le Père Guardini laisse planer un certain suspense, puisqu'il attend plusieurs pages avant de nous dévoiler la deuxième voie. Il nous dit « La première voie est la voie de la connaissance et l'amour. » Alors, à la radio, pas trop de suspense, parce que c'est plus difficile de suivre le déroulement que lorsqu'on lit et qu'on tourne les pages, qu'on vient en avant, en arrière. La deuxième voie, ce sera la communion eucharistique. Donc la première voie, la connaissance et l'amour, et la deuxième voie, la communion grâce au corps et au sang du Christ dans l'Eucharistie. Et son intention, en développant ces deux chemins pour aller jusqu'à l'union avec Dieu, c'est de nous rapprocher deux symboles liturgiques, deux réalités liturgiques, d'un côté la lumière, et de l'autre le pain et le vin. Je me permets de vous raconter une toute petite anecdote pour faire sentir la proximité nécessaire entre les deux symboles. Il nous est arrivé d'aller célébrer la messe dans la montagne, en Savoie, en Haute-Savoie, et nous avions tout préparé pour célébrer la messe avec le groupe, mais au final, il y avait eu un défaut d'organisation, il n'y avait ni bougie, et encore plus difficile, rien pour allumer. On aurait pu, à la limite, essayer de fabriquer des petites torches pour avoir des luminaires autour de l'autel en pierre que nous avions trouvé, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas le moindre briquet, pas la moindre boîte d'allumettes, parce que personne ne fumait et que c'était une excursion sur une seule journée. Nous avons célébré la messe sans lumière, sans cierge, sans rien qui brûle sur l'autel, sans flamme, à côté du pain et du vin pour célébrer le sacrifice eucharistique. Bien, cette absence de lumière, cette absence de flamme à proximité du calice et de la patène ont été vraiment quelque chose de pénible. Vous savez bien que c'est lorsqu'on manque de quelque chose qu'on découvre à quel point, même lorsqu'on c'est du domaine du symbole, cette réalité est essentielle. Bien, la proximité, pendant qu'on célèbre la messe, du pain et du vin et des flammes, et des lumières, des cierges, est quelque chose d'absolument essentiel. Et le Père Guardini nous explique pourquoi. Parce que nous avons ici réuni symboliquement, comme signe sacré, les deux chemins de l'union avec Dieu. Bien sûr, les symboles ne sont absolument pas équivalents, parce que le symbole va devenir réalité, réalité sacramentelle, substantielle, avec la consécration eucharistique. Mais la réunion de ces éléments symboliques est absolument indispensable pour vivre d'une façon très humaine, très incarnée, en même temps très spirituelle, le cœur de la célébration de la messe. Première voie, la connaissance et l'amour. Connaître, c'est s'unir à l'autre. La connaissance nous permet de nous approcher jusqu'à l'intime de l'autre et elle amène l'autre en nous, jusque dans le plus profond de notre cœur. L'autre va faire corps avec nous, symboliquement. Il va devenir un morceau de nous-mêmes. Aimer, c'est s'unir de cette façon-là, et ce n'est pas seulement tendre vers une réalité qui est extérieure. Ainsi, plus nous aimons une chose, et plus elle nous appartient. Alors, ce n'est pas tout à fait exact avec les personnes, on ne peut pas dire que les personnes nous appartiennent ou dans un sens vraiment dérivé. Il s'agit d'un amour spirituel, qu'on va pouvoir appeler spirituel, spirituel, pour le distinguer d'un amour spirituel sacramentel ou spirituel eucharistique. Cet amour, en fait, va résider beaucoup dans l'élan qui nous porte vers l'autre. L'amour va être ici un élan vers Dieu, une montée vers Dieu, une ascension vers Dieu. Alors, qu'y a-t-il dans le monde matériel pour représenter cette voie, pour être un symbole de cette voie qui conduit à l'union parfaite avec Dieu dans la charité parfaite? Bien, il y en a une réalité qui va symboliser à merveille, c'est la lumière et l'ardeur de la lumière. Alors, nous avions déjà médité au sujet surtout de la lampe du sanctuaire, de la lampe à côté du tabernacle. Ici, le symbole est tellement fort qu'il faut y revenir avec le cierge. Le cierge avec sa flamme brillante. Alors, dans d'autres textes, le père Guardini, j'allais dire, a pratiquement balayé d'un revers de la main le fait de remplacer le cierge de cire avec sa flamme par l'ampoule électrique. Parce que il est impressionné par la perfection, toujours un petit peu froide, un peu glaciale, de la lumière électrique, de la constance de la lumière électrique, et cette constance qui finit par être réfrigérante. Alors que le cierge vacille, le cierge monte, le cierge brille plus ou moins, et que cette réalité en fait une lumière vivante. Et il est nécessaire que la lumière soit vivante, que la lumière puisse représenter une personne en train de vivre. Nous voilà devant ce cierge qui va vouloir manifester le chemin de l'union comme étant un élan vers le haut, comme étant une élévation, comme étant un espèce de saut jusque dans le mystère de Dieu. Où est la spiritualité dans le fait que le cierge manifeste l'union avec Dieu? C'est parce que pendant que notre œil voit la lumière du cierge, pendant qu'il reçoit cette lumière et ainsi ne fait qu'un avec elle, notre œil ne l'a pas touchée. Il n'y a pas de contact matériel. La flamme reste elle-même, l'œil reste lui-même. C'est vraiment une très très belle approche du mystère de la communion avec Dieu. Dieu, qui est le feu dévorant, reste lui-même, et nous, lorsque nous entrons en communion avec Dieu, comme l'œil, nous restons nous-mêmes. Et pourtant, les deux se sont fondus en un. Nous avons vraiment reçu par notre œil la lumière en nous. Il y a eu une union intime sans qu'il y ait de contact physique, sans qu'il y ait de mélange. C'est une union respectueuse et chaste entre Dieu et l'âme, entre l'âme et Dieu. Toute union avec Dieu est chaste. C'est ce que nous révèle infiniment le mystère de la Vierge Marie. Comment cette rencontre avec l'Éternel, qui va permettre la venue au monde du Fils de Dieu lui-même, comment cette rencontre est totalement chaste et totalement spirituelle et surnaturelle. C'est un symbole très profond de l'union que la connaissance va réaliser entre Dieu et l'âme. Dieu est vérité, nous dit la Bible. Connaître la vérité, c'est d'une certaine manière la posséder dans son esprit. Dieu habite chez celui qui le connaît bien. Dieu vit dans l'esprit de celui qui pense à lui vraiment. Mais sans qu'il y ait choc, sans qu'il y ait un effet de destruction, comme le feu pourrait détruire celui qui s'approche trop de lui. Connaître Dieu équivaut à s'unir à lui, comme la flamme s'unit l'œil qui est en train de la regarder. Nous avions dit dans une méditation précédente que rien n'interdisait le fait de fermer les yeux pendant la messe, rien n'interdit non plus de les ouvrir et même de regarder ces flammes qui sont sur l'autel, qui sont toutes proches du mystère qui va se célébrer, toutes proches du grand mystère du sacrifice eucharistique. Et comme la lumière s'unit à nous par l'œil, eh bien, Dieu va pouvoir s'unir totalement spirituellement par notre intention, par notre accueil, par notre recueillement pendant la célébration de la messe. L'union va naître d'un foyer lumineux. C'est ça que le fait de regarder le cierge en train de brûler manifeste très symboliquement. L'union va naître d'un foyer. Nous sentons, si nous nous approchons, nous pouvons sentir la flamme avec nos mains ou avec notre visage. Nous laissons entrer sa chaleur et pourtant, la flamme n'est pas abîmée, la flamme n'est pas gênée par cette proximité entre nous et elle. Cela symbolise encore une fois l'amour. La flamme qui est Dieu nous remplit de ses ardeurs, nous unit à elle, alors que nous ne l'avons pas touchée physiquement. Dieu aime celui qui déjà l'a accueilli dans son esprit. Le bien qui est Dieu devient mien dès que je me mets à l'aimer. Dieu vit en moi bien que je ne le touche pas. C'est le chemin spirituel, le chemin spirituel. La flamme symbolise aussi notre âme. Alors c'est là où la puissance des signes risque de nous dérouter, mais c'est exactement la manière de faire du livre de l'Apocalypse en particulier, où les symboles doivent être accueillis sans être trop interprétés, et où ils doivent pouvoir recevoir plusieurs identifications, plusieurs personnifications. Voilà que la flamme, jusqu'à présent, était Dieu lui-même, mais la flamme doit aussi symboliser notre âme. C'est ce que le père Guardini méditait au sujet de la lampe du tabernacle. Nous voulons en faire en même temps le symbole du Dieu vivant. Dieu est lumière, il n'y a aucune obscurité en lui, dit l'Écriture. La flamme répand la lumière autour d'elle et Dieu répand la vérité. La flamme répand la chaleur et Dieu répand la bonté bienfaisante. La flamme s'élance dans toute sa noblesse, intacte et pure, semblable au Très-Haut qui habite dans la lumière inaccessible. Oui, il faut que la flamme s'élance. Il faut aussi qu'il y ait des moments un peu de faiblesse dans la flamme et qu'ensuite elle s'élance et se relance. C'est une très belle parabole de notre vie de prière et de la vie spirituelle, avec les hauts et les bas inévitables dans le cheminement de l'âme vers Dieu. Ce feu représente le Dieu vivant, mais il nous représente tellement bien, nous aussi. On comprend la place de la lumière, la place du cierge, dans toute la liturgie, pas seulement la messe et les sacrements, mais aussi dans l'office divin, dans la prière des psaumes, où une flamme doit être aussi allumée et où, dans certains moments de la prière de la liturgie, il peut y avoir l'embrasement de plusieurs flammes. Pour rappeler la prière du lucernaire aux origines de l'Église ou dans d'autres traditions liturgiques qui marquent l'office des vêpres, particulièrement lorsque ce sont des fêtes ou des solennités. Et une grande partie des hymnes de la tradition latine sont des hymnes qui parlent de la lumière et qui évoquent le mystère de la lumière pour faire comprendre à quel point Dieu est lumière et comment la rédemption est lumière. Comment le don de la grâce est don de la lumière. Les flammes, les lumières, les cierges ont ainsi cette place absolument irremplaçable, et on comprend que dans la nuit de Pâques, dans la grande nuit du samedi saint au matin de Pâques, le cierge pascal intervienne et devienne le symbole du Christ. Et d'une certaine manière, tous les cierges de la liturgie vont trouver leur origine terrestre dans la lumière du cierge pascal. C'est là aussi volontairement une double symbolique, puisque la lumière va vouloir représenter le Christ et nous allons être embrasés par la lumière du Christ. Donc la lumière est partout parce que la rédemption accomplie par le Christ est partout. Il y a le cierge de Pâques qui est acclamé, lumière du Christ, qui montre l'entrée de la rédemption dans toute la vie de l'Église, mais il y a aussi nos cierges à nous. Et dans un autre de ses livres, qui s'appelle La vie de la foi, Romano Guardini explique: comme un cierge s'allume à la flamme d'un autre, ainsi la foi s'allume à la foi. Et voilà comment on atteint un nouveau niveau de symbolisme, c'est que celui qui reçoit la lumière du Christ devient capable à son tour de transmettre la lumière de la foi. C'est ce que nous vivons chaque année avec la vigile pascale. La lumière vient uniquement du Christ, et les luminaires de l'Église, toutes les lumières de l'Église, viennent mendier leur feu au seul foyer de chaleur et de lumière qui est le Christ et le Christ ressuscité. Nous venons mendier la lumière, mais une fois que nous l'avons reçue, nous ne la gardons pas pour nous, et par la grande grâce de Dieu, la grande bonté de Dieu, mystérieusement, salvifiquement, nous arrivons à communiquer la lumière de la foi à ceux qui sont proches de nous. Comme un cierge s'allume à la flamme d'un autre, ainsi la foi s'allume à la foi d'un autre. Elle s'allume, elle tressaille et elle se communique. C'est la première voie, le chemin de la pure connaissance grâce à l'accueil de la lumière divine dans notre esprit. Il y a un autre chemin. Et cet autre chemin, personne n'avait pu l'imaginer. Personne n'avait pu le soupçonner, comme dit souvent saint Paul lorsqu'il parle du mystère du Christ. Une autre voie mène à Dieu. Sans le Christ, nous l'ignorions totalement, et sans la liturgie qui s'est engagée sans peur et sans hésitation dans cette voie. La messe a été célébrée dès le début de l'Église, dès le tout début de l'Église. Dès le temps de la Pentecôte, de la première Pentecôte, la messe a été célébrée et le Père Guardini nous dit « La liturgie s'est engagée dans cette voie de l'Eucharistie sans peur, sans hésitation. » Le Seigneur Jésus avait tellement préparé l'Église, les apôtres, la Vierge Marie avait tellement expliqué et encore expliqué aux apôtres autour d'elle et aux disciples ce qu'avait voulu dire son divin Fils en parlant de l'Eucharistie, qu'il n'y a pas eu de temps d'hésitation, il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu de réflexion savante pour savoir comment on allait pouvoir célébrer la messe. Non, le Christ Seigneur l'avait expliqué, l'Esprit Saint avait éclairé, la Vierge Marie avait accompagné tout ce chemin de foi, et les apôtres ont célébré la messe. Et l'autre voie pour aller jusqu'à l'union avec Dieu était là, à disposition, en même temps que la voie de la prière pure, la voie de la méditation et de la contemplation. C'est autre chose que l'union par connaissance et par amour spirituel. Mais c'est bien de l'union avec Dieu. C'est l'union de notre être à nous avec Dieu lui-même. Notre être tout entier, corps et âme, ou si on veut corps, âme et esprit, va tendre vers Dieu. Pas seulement notre intelligence et notre volonté, mais aussi notre chair, mais aussi notre corps. Le psaume nous le disait déjà, « Mon cœur et ma chair se sont tendus vers le Dieu vivant. Mon âme et mon corps, mon âme et ma chair, tendus vers le Dieu vivant. » Et cette tension de toute notre personne vers l'union avec Dieu, nous croyons que c'est le signe très sacré, très saint, du pain et du vin qui vont nous permettre de le réaliser, qui vont nous permettre de recevoir cette union, de recevoir cette communion. D'une certaine manière, nous attendions tous que le Père Guardini en arrive au pain et au vin. Et nous pouvons être étonnés parce qu'il va être relativement sobre. On pourrait penser qu'arrivant à quelque chose d'aussi essentiel dans les signes de Dieu, il aurait eu envie de développer, de s'étendre longuement. Mais non, il sait qu'il y aura un autre livre sur la messe dans lequel il pourra reprendre les choses. Et là, il veut simplement nous mettre en présence de ces grands signes choisis par le Seigneur Jésus en personne, préparés par tout l'Ancien Testament et choisis par le Seigneur. C'est l'union. Et il ne s'agit ni de mélanger, ni de confondre les deux réalités qui s'unissent, la substance de Dieu et notre substance à nous. Le mélange, la confusion, ce serait insensé, encore plus qu'audacieux, parce que l'être de Dieu n'admet aucun alliage. Il y a communion, mais pas alliage, comme on pourrait le penser avec une approche trop matérielle, une approche trop terrestre. L'union par l'esprit n'est donc pas la seule possible. Il existe une union des êtres, une union des personnes qui, pour nous, va passer par l'union du corps avec le corps du Christ. Nous devons désirer cette union des personnes et nous devons trouver les moyens pour la vivre de la façon la plus intense, en même temps que la plus humaine et la plus surnaturelle possible. La Bible et la liturgie vont traduire ce désir de communion qui existe quelque part dans le tréfonds de l'âme humaine, et ils vont chercher une expression profonde. ils vont dire, je souhaite que Dieu, dans sa vie, s'unisse à ma vie, comme le boire et le manger s'unissent à mon corps. C'est tout l'Ancien Testament qui prépare cette arrivée du mystère de l'Eucharistie. Le boire et le manger, les mots sont délibérément profanes, délibérément très terre-à-terre, très concrets. Mais il s'agit du mystère du repas. Et le père Guardini affirme, et c'est quelque chose de très fort, le repas est un événement communautaire et collectif. C'est la réflexion d'un théologien jésuite qui avait beaucoup étudié le père Henri de Lubac, qui disait, en regardant un jeune homme manger un hamburger assis sur un trottoir, en disant, mais si le repas devient ceci dans notre société, comment nous allons pouvoir prêcher l'Eucharistie? Si le repas n'est plus une réalité communautaire, familiale, si le repas n'est pas un moment où se tissent des relations humaines, alors il ne reste plus que le boire et le manger. Et ce que le Seigneur Jésus choisit comme mystère, c'est le mystère du repas liturgique, du repas quasi-sacramentel de la Pâque juive. C'est un moment totalement entouré de prières, de vie de famille, d'amour fraternel et d'espérance en la vie éternelle, d'espérance en la Pâque définitive. Nous réjouir sur cette terre en sachant qu'un jour, il y aura le festin du royaume des cieux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Donc, le pain et le vin sont une stylisation du mystère du repas. Le poisson de la multiplication des pains disparaît lors de la célébration des toutes premières messes, mais il reste merveilleusement stylisé le mystère du repas avec le partage du pain et du vin. Nous avons faim de Dieu, nous avons soif de Dieu. C'est une tentative d'explication, de première explication, pour le fait qu'il y ait deux espèces sacramentelles, deux espèces eucharistiques. Une pour la faim de Dieu, une pour la soif de Dieu. C'est tellement simple que peut-être nous ne serions pas parvenus à y penser tout seul. Il nous faut encore faire plus que le connaître et l'aimer. Alors nous avons reconnu le premier chemin. Nous voulons toucher Dieu, saisir Dieu. Nous voulons nous approprier Dieu. Sans crainte, dans la ligne même de ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné, nous pouvons affirmer que nous voulons manger Dieu, que nous voulons boire Dieu, le faire passer en nous jusqu'à en être rassasié, à être rempli de lui. Il ne faut pas pousser trop loin l'explication des symboles, l'explication des mystères, mais il y a une espèce de tendance dans le Nouveau Testament à expliquer que on mange le Verbe et on boit l'Esprit-Saint. Nous sommes désaltérés par l'Esprit-Saint, dit saint Paul, et nous mangeons le pain des anges, nous mangeons le Verbe. Ce qui permet de garder toute la dimension trinitaire au mystère de la communion eucharistique en souvenant que l'Esprit-Saint nous est donné par la chair du Christ et qu'il y a une présence de l'Esprit-Saint au moment même de la communion qui est une réalité extrêmement importante pour embrasser la plénitude du sacrement, la plénitude du mystère. Donc sans aller trop loin, gardons dans notre cœur, comme il y a une volonté de manger et de boire, il y a une volonté de communier au Fils et au Saint-Esprit, pour que Ensemble, il nous donne la communion avec le Père. Le jour de la fête du corps et du sang du Christ, le jour de la fête Dieu, le Père Guardini a beaucoup médité sur la fête Dieu, sur une recherche pour rendre à la fête Dieu toute sa puissance spirituelle et surnaturelle, pour garder tous les aspects qu'on pourrait appeler folkloriques. Alors il emploie le mot en essayant de ne pas être trop intellectualiste, trop méprisant comme le grand philosophe qui participe un petit peu du bout des lèvres au chant de la fête Dieu. Il n'a pas du tout été comme ça dans sa vie. Il s'est réjoui intensément de participer à des processions, à des grandes célébrations de la fête Dieu. Mais il dit, nous pouvons aller plus loin. On peut mettre encore plus de souffle spirituel dans notre manière de vivre la fête Dieu. Et donc la fête Dieu, pour lui, est profondément exprimé par les paroles de l'Évangile. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. Pour lui, c'est l'interprétation la plus forte de l'ensemble de la cérémonie de la fête Dieu. Manger le Seigneur Jésus. De nous-mêmes, nous n'oserions pas y prétendre. Cela pourrait ressembler à un crime, en fait. Mais après les paroles du Christ lui-même, entendues dans l'Esprit Saint, nous pouvons dire sans crainte, oui, ce doit être ainsi pour accomplir l'ordre du Christ, pour faire la volonté du Père, je dois manger la chair du Fils de l'homme. Cette ambition de manger Dieu n'entraîne aucune irrévérence et rien qui pourrait donner l'impression de combler l'abîme qui sépare la créature du Créateur. D'ailleurs, si ce n'est pas le Créateur en personne que nous mangeons, il n'y a plus de communion, il n'y a plus, on pourrait dire, plus d'intérêt à communier, puisque nous recevrions une réalité qui serait un peu nous-mêmes ou juste au-dessus de nous-mêmes. Le grand mystère, c'est de pouvoir passer par-dessus cet abîme en apparence infranchissable qui sépare Dieu de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons en aucun cas taire les désirs que Dieu a déposés lui-même au fond de notre cœur. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous réjouir et de nous réjouir intensément du cadeau que représente ce Dieu que nous pouvons manger par la médiation de l'Eucharistie. Il nous l'a dit, « Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père m'a donné d'avoir la vie en moi, celui qui me mange aura la vie par moi. » Le manger, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, recevoir en nous le Dieu fait homme, comme cela dépasse ce que auraient pu imaginer dans les plus fous de leurs rêves les plus grands philosophes de tous les temps. Mais cela répond à nos désirs les plus saints, nos désirs les plus infinis, nos désirs les plus profonds. Eh bien, le pain et le vin se prêtent merveilleusement à ce mystère. Alors, le pain est nourriture solide et forte qui normalement ne dégoûte pas, dont on n'est jamais rassasié au sens qu'on voudrait absolument passer à une autre nourriture, changer. Le pain comme nourriture de base, comme accompagnement ou nourriture fondamentale. Le pain est bon comme du bon pain, dans le sens le plus profond du mot. En empruntant l'apparence du pain, Dieu se fait la vivante nourriture des hommes. Le pain est un aliment qui nourrit notre être du Dieu vivant et que nous sommes en lui et lui en nous. Mystère de force, mystère qui nous maintient dans l'être, qui nous fait rester auprès de Dieu sans dépérir, mystère aussi de croissance. C'est ce mystère du pain qui est là tout près de nous. Le vin est une boisson, mais cette boisson ne cherche pas seulement à calmer la soif. L'eau pourrait suffire, qui est d'ailleurs mêlée au vin. Le vin fait quelque chose de plus. Il donne la joie. Il réjouit le cœur de l'homme. C'est le mystère de la fête. Le vin doit engendrer la joie, communiquer la sobre ivresse. Toute messe est une fête intense, surnaturelle et divine, et la présence du vin, la boisson de la fête, la boisson de la joie, dont nous savons aussi qu'elle est une boisson du sacrifice, une boisson qui veut représenter tout un travail et tout un sacrifice de soi-même, mais qui conduit à la joie. Cette joie est totalement inséparable du mystère de l'Eucharistie. Eh bien, c'est dans cette joie que je vous laisse ce soir, alors sans abuser de la joie divine, du fruit de la vigne et du travail des hommes, mais en recueillant cet enseignement spirituel, la messe ne peut pas être une fête. Un moment d'allégresse. Une allégresse peut-être extrêmement intérieure, extrêmement simple et effacée, mais une allégresse qui anticipe sur le festin du royaume.